Bonjour, vous êtes sur Fréquence Mistral dans l'émission Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs, tu as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs.
Au déclin d'une chaude journée de printemps sur la promenade de l'étang du Patriarche, apparurent deux citoyens. Le premier, qui paraissait âgé d'une quarantaine d'années, était vêtu d'un léger complet d'été gris clair. Il avait la taille petite mais bien prise, voire replète, le cheveu brun quoique rare, et son visage soigneusement rasé s'ornait d'une paire de lunettes de dimension prodigieuse à monture d'écaille noire. Quant à son chapeau de qualité fort convenable, il le tenait froissé dans sa main comme un de ces beignets qu'on achète au coin des rues. Son compagnon, un jeune homme de forte carrure, dont les cheveux roux s'échappaient en broussailles d'une casquette à carreaux négligemment rejetée sur la nuque, portait une chemise de cow-boy, un pantalon blanc fripé et des espadrilles noires. Le premier n'était autre que Mikhaïl Alexandrovitch Berlioz, rédacteur en chef d'une épaisse revue littéraire et président de l'une des plus considérables associations littéraires de Moscou, appelée en abrégé Massolite. Quant au jeune homme, c'était le poète Ivan Nikolaïevitch Ponireyev, plus connu sous le pseudonyme de Biesdomny. Ayant gagné les ombrages de Tilleul à peine verdissant, les deux écrivains eurent pour premier soin de se précipiter vers une baraque peinturlurée dont le fronton portait l'inscription « Bière au minéral ». C'est ici qu'il convient de noter la première étrangeté de cette terrible soirée de mai. Non seulement autour de la baraque, mais tout au long de l'allée parallèle à la rue Malaya-Bronaya, il n'y avait absolument personne. À une heure où, semble-t-il, l'air des rues de Moscou surchauffé était devenu irrespirable, où, quelque part au-delà de la ceinture Sadovaya, le soleil s'enfonçait dans une brume de fournaise, personne ne se promenait sous les tilleuls, personne n'était venu s'asseoir sur les bancs. L'allée était déserte. « Donnez-moi de l'eau de narzan, » demanda Berlioz à la tenancière du kiosque. « Il n'y en a pas, » répondit-elle en prenant, on ne sait pourquoi, un air offensé. « Vous avez de la bière ?» s'informa Biesdomny d'une voix sifflante. « On la livre ce soir, » répondit la femme. « Qu'est-ce que vous avez alors ?» demanda Berlioz. « Du jus d'abricot, mais il est tiède, » dit la femme. « Bon, donnez, donnez. » En coulant dans les verres, le jus d'abricot fournit une abondante mousse jaune et l'air ambiant se mit à sentir le coiffeur. Dès qu'ils eurent bu, les deux hommes de lettres furent pris de hoquet. Ils payèrent et allèrent s'asseoir sur un banc, le dos tourné à la rue Bronaya. C'est alors que survint la seconde étrangeté, concernant d'ailleurs le seul Berlioz. Son hoquet s'arrêta net. Son cœur cogna un grand coup dans sa poitrine, puis, semble-t-il, disparut soudain, envolé on ne sait où. Il revint presque aussitôt, mais Berlioz eut l'impression qu'une aiguille émoussée y était plantée. En même temps, il fut envahi d'une véritable terreur, absolument sans raison, mais si forte qu'il eut envie de fuir à l'instant même à toutes jambes et sans regarder derrière lui. Très peiné, Berlioz promena ses yeux alentour, ne comprenant pas ce qui avait pu l'effrayer ainsi. Il pâlit, s'épongea le front de son mouchoir et pensa « Mais qu'ai-je donc ?» C'est la première fois que pareille chose m'arrive. Ce doit être mon cœur qui me joue des tours. Le surmenage. Il faudrait peut-être que j'envoie tout au diable et que j'aille faire une cure à Kislovodsk.
« Slave, Julia Slave. Je suis né à Ville d'Avray, mes parents étaient bien français, ma mère s'appelait Jeanne et mon père Victor. Moi je m'appelle Igor. Mon vrai nom n'évoque pas le Languedoc, plutôt moscovite, il est explicite. Quand on m'imagine, on voit ta marine qui s'apprenait à boire à son samovar. L'air slave, j'ai l'air slave. Et ça me poursuit depuis tellement longtemps que je suis devenu slave malgré moi et sans m'en apercevoir. L'âme slave. J'ai l'air slave. J'ai jamais été plus loin que la barrière de Pantin. Tout ce que j'ai de russe en moi c'est le prénom. Mais ça suffit bien. Oui, à force d'entendre tous les gens me prendre pour russe authentique, j'en ai tous les tics, j'habille de Zakous, je bouffe des pioches, je bois de la vodka au milieu des repas. L'âme slave, j'ai l'âme slave. Je suis tellement influencé par mon prénom qu'à toutes les fenêtres de la maison je viens de faire mettre des rideaux de fer. Mais je les laisse ouverts, j'ai l'âme slave.
Il n'y a pratiquement pas une seule religion orientale, disait Berlioz, où l'on ne puisse trouver une vierge immaculée mettant un dieu au monde. Les chrétiens ont créé leur Jésus exactement de la même façon, sans rien inventer de nouveau. En fait, Jésus n'a jamais existé. C'est là-dessus principalement qu'il faut mettre l'accent. La voix de ténor de Berlioz résonnait avec éclat dans l'allée déserte. Et à mesure que Mikhaïl Alexandrovitch s'enfonçait dans un labyrinthe où seuls peuvent s'aventurer sans risquer de se rompre le cou des gens d'une instruction supérieure, le poète découvrait à chaque pas des choses curieuses et fort utiles sur le dieu égyptien Osiris, fils bienfaisant du ciel et de la terre, sur le dieu phénicien Tammuz, sur Marduk, dieu de Babylone, et même sur le dieu terrible, quoique moins connu, Huitzilopochtli, fort honoré jadis par les Aztèques du Mexique. C'est au moment précis où Mikhaïl Alexandrovitch racontait au poète comment les Aztèques façonnaient à l'aide de pattes des figurines représentant Huitzilopochtli, c'est à ce moment précis que, pour la première fois, quelqu'un apparut dans l'allée. Par la suite, alors qu'à vrai dire il était déjà trop tard, différentes institutions décrivirent ce personnage dans les communiqués qu'elles publièrent. La comparaison de ceux-ci ne laisse pas d'être surprenante. Dans l'un, on dit que le nouveau venu était de petite taille, avait des dents en or et boitait de la jambe droite. Un autre affirme qu'il était énorme, que les couronnes de ses dents étaient en platine et qu'il boitait de la jambe gauche. Un troisième déclare laconiquement que l'individu ne présentait aucun signe particulier. Il faut bien reconnaître que ces descriptions, toutes tant qu'elles sont, ne valent rien. Avant tout, le nouveau venu ne boitait d'aucune jambe. Quant à sa taille, elle n'était ni petite ni énorme, mais simplement assez élevée. Ses dents portaient bien des couronnes, mais en platine à gauche et en or à droite. Il était vêtu d'un luxueux complet gris et chaussé de souliers de fabrication étrangère, gris comme son costume. Coiffé d'un béret gris, hardiment tiré sur l'oreille, il portait sous le bras une canne de jonc dont le pommeau noir était sculpté en tête de caniche. Il paraissait la quarantaine bien sonnée. Bouche légèrement tordue, rasée de près, brun. L'œil droit noir, le gauche, on se demande pourquoi, vert. Des sourcils noirs tous deux, mais l'un plus haut que l'autre. Bref, un étranger. Passant devant le banc où le rédacteur en chef et le poète avaient pris place, l'étranger loucha vers eux, s'arrêta et brusquement s'assit sur le banc voisin, à quelques pas des deux amis. Un Allemand, pensa Berlioz. Un Anglais, pensa Biesdomny, et qui porte des gants par cette chaleur. Cependant, l'étranger enveloppait du regard les hautes maisons qui bordaient l'étang en carré. Il était visible qu'il se trouvait là pour la première fois et que le spectacle l'intéressait. Ses yeux s'arrêtèrent sur les étages supérieurs, dont les vitres renvoyaient l'image aveuglante d'un soleil brisé qui, pour Mikhaïl Alexandrovitch, allait disparaître à jamais, puis descendirent vers les fenêtres que le soir assombrissait déjà. Il eut alors, sans qu'on pût en deviner la raison, un sourire légèrement ironique et condescendant, cligna de l'œil, posa les mains sur le pommeau de sa canne et son menton sur ses mains. « Excusez-moi, je vous prie, » dit l'homme, avec un accent étranger mais sans écorcher les mots. « Je vous suis inconnu et je me permets de Mais le sujet de votre savante conversation m'intéresse tellement que... » En disant ces mots, il ôta poliment son béret, et les deux amis n'eurent d'autre ressource que de se lever et de saluer l'inconnu. « Non, ce serait plutôt un Français, » pensa Berlioz. « Un Polonais, » pensa Biesdomny. Il est nécessaire d'ajouter que dès ses premières paroles, l'étranger fit sur le poète une impression défavorable, tandis que Berlioz le trouva plutôt plaisant. Enfin, pas tellement plaisant, mais comment dire, intéressant, voilà. « Me permettez-vous de m'asseoir ?» demanda poliment l'étranger. Non, sans quelque mauvaise grâce, les amis s'écartèrent. Avec beaucoup d'aisance, l'homme s'assit entre eux et se mit aussitôt de la conversation. « Si je ne me suis point mépris, vous avez jugé bon d'affirmer, n'est-ce pas, que Jésus n'avait jamais existé ? » demanda-t-il en fixant son œil vert sur Berlioz.
Je vivais comme une ombre, j'avais les idées sombres, faisant partie d'une ombre des désespérados. Je ne savais quoi faire pour chasser ma misère. Quand on est solitaire, aïe, on a froid dans les os. Quand dans une chapelle, sous la blanche et très belle statue de la douce Immaculée Conception, je sentis la foi naître et au fond de mon être du Seigneur Jésus-Christ, j'ai la révélation dans les bras de Jésus. Maintenant tous les jours je danse, et désormais mon existence vaut la peine d'être vécue dans les bras de Jésus. Maintenant tous les jours je chante, pour moi la vie n'est plus méchante, et de joie je suis éperdue dans les bras de Jésus.
Mais permettez-moi, reprit le visiteur après un instant de méditation inquiète, permettez-moi de vous demander ce que vous faites alors des preuves de l'existence de Dieu, qui, comme chacun sait, sont exactement au nombre de 5. Hélas, répondit Berlioz avec compassion, ces preuves ne valent rien du tout, et l'humanité les a depuis longtemps reléguées aux archives. Vous admettrez que sur le plan rationnel, aucune preuve de l'existence de Dieu n'est concevable. « Bravo !» s'exclama l'étranger, « bravo ! Vous venez de répéter exactement l'argument de ce vieil agité d'Emmanuel. Il a détruit de fond en comble les 5 preuves, c'est certain. Mais par la même occasion, et comme pour se moquer de lui-même, il a forgé de ses propres mains une 6e preuve. C'est amusant, non ?»« La preuve de Kant, » répliqua l'érudit rédacteur en chef en souriant finement, « n'est pas plus convaincante que les autres. » Schiller n'a-t-il pas dit à juste titre que les raisonnements de Kant à ce sujet ne pouvaient satisfaire que des esclaves? Quant à David Strauss, il n'a fait que rire de cette prétendue preuve. Tout en parlant, Berlioz pensait « Qui peut-il être à la fin? Et pourquoi parle-t-il aussi bien le russe ?»« Votre Kant, avec ses preuves, je l'enverrai pour 3 ans aux îles Solovki, » moi, lança soudain Ivan Nikolaïevitch, tout à fait hors de propos. « Ivan !» chuchota Berlioz, rouge de confusion. Mais l'idée d'envoyer Kant au Solovki, loin de choquer l'étranger, le plongea au contraire dans le ravissement. « Parfait, parfait !» s'écria-t-il. Et son œil vert, toujours tourné vers Berlioz, étincela. « C'est exactement ce qu'il lui faudrait. Du reste, je lui ai dit un jour en déjeunant avec lui, « Voyez-vous, professeur, excusez-moi, mais vos idées sont un peu incohérentes, très intelligentes sans doute, mais terriblement incompréhensibles. On rira de vous !» Berlioz ouvrit des yeux ronds. « En déjeunant avec Kant ?» Qu'est-ce qui me chante là, pensa-t-il. Malheureusement, continua l'exotique personnage en se tournant, nullement déconcerté par l'étonnement de Berlioz vers le poète, il est impossible d'expédier Kant à Solovki pour la simple raison que depuis 100 ans et quelques années, il séjourne dans un lieu sensiblement plus éloigné que Solovki et dont on ne peut le tirer en aucune manière, je vous l'affirme. Je le regrette, répliqua le bouillant poète. Je le regrette aussi, croyez-moi, approuva l'inconnu. Puis il reprit. « Mais voici la question qui me préoccupe. Si Dieu n'existe pas, qui donc gouverne la vie humaine et en général l'ordre des choses sur la terre? C'est l'homme qui gouverne, se hâta de répondre le poète courroucé, bien que la question, il faut l'avouer, ne fût pas très claire. Pardonnez-moi, dit doucement l'inconnu, mais pour gouverner, encore faut-il être capable de prévoir l'avenir avec plus ou moins de précision, et pour un délai tant soit peu acceptable. Or, permettez-moi de vous le demander, comment l'homme peut-il gouverner quoi que ce soit, si non seulement il est incapable de la moindre prévision, ne fût-ce que pour un délai aussi ridiculement bref que, disons, un millier d'années, mais si en outre il ne peut même pas se porter garant de son propre lendemain. Tenez, imaginons ceci, reprit-il en se tournant vers Berlioz. Vous, par exemple, vous vous mettez à gouverner, vous commencez à disposer des autres, de vous-même, bref, comme on dit, vous y prenez goût et soudain, vous attrapez un sarcome au poumon. En disant ces mots, l'étranger sourit avec gourmandise, comme si l'idée du sarcome lui paraissait des plus agréables. « Oui, un sarcome, répéta-t-il en fermant les yeux et en ronronnant comme un chat. Et c'est la fin de votre gouvernement. Dès lors, vous vous moquez éperdument du sort des autres, seul le vôtre vous intéresse, vos parents et vos amis commencent à vous mentir, pressentant un malheur, vous courez voir les médecins les plus éminents, puis vous vous adressez à des charlatans et vous finissez évidemment chez les voyantes. Tout cela, ai-je besoin de vous le dire, en pure perte ? Et les choses se terminent tragiquement, celui qui naguère encore croyait gouverner se retrouve allongé, raide, dans une boîte en bois, et son entourage, comprenant qu'on ne peut plus rien faire de lui, le réduit en cendres. Mais il peut y avoir pis encore. On se propose, par exemple, quoi de plus insignifiant, d'aller faire une cure à Kislovodsk. L'étranger lança un clin d'œil à Berlioz. Et voilà, nul ne sait pourquoi, qu'on glisse et qu'on tombe sous un tramway. Allez-vous me dire que celui à qui cela arrive l'a voulu ? N'est-il pas plus raisonnable de penser que celui qui a voulu cela est quelqu'un d'autre, de tout à fait autre ? Et l'inconnu éclata d'un rire étrange. Berlioz avait écouté avec une attention soutenue la désagréable histoire du sarcome et du tramway. Et maintenant, une idée inquiétante le tourmentait. Ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas un étranger, pensait-il. C'est sauf le respect un type extrêmement bizarre. Mais qui cela peut-il être ?
Qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole, les gars. Elle est drôlement bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? On va pas se laisser faire, les gars. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Non mais ça va pas, mon petit gars. On va le mettre en prison, ce type-là. S'il continue comme ça.
Je ne suis pas un playboy, je ne fais pas de mine. Avec ma grosse moustache et mon long nez de queen. Mais je ne sais pas pourquoi quand je souris aux filles, elles veulent toujours m'emmener coucher dans leur famille. Et leur mari disait de moi,
qui c'est celui-là?
Ce n'est pas de ma faute à moi si les femmes mariées préfèrent sortir avec moi pour jouer à la poupée. Elles aiment mes cheveux blonds et mes yeux polissons. Mais je crois que ce qu'elles préfèrent, c'est mon petit ventre rond. Et leur mari disait de moi,
c'est celui-là. Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis champagne, les gars.
Si vous saviez comme c'est beau d'être bien dans sa peau, je bois mon pastis au bar avec le chef de gare. Je me gare n'importe où, je vous jure que je suis heureux. Mais ça emmerde les gens quand on vit pas comme eux. Et les gens disent de moi,
we'll be right back.
cette terre tout n'était que vice. Et que pour faire des affaires je manquais de malice. Je montais dans mon engin interplanétaire et je ne remis jamais les pieds sur la terre. Et les hommes disaient de moi,
qui c'est celui-là? Complètement toqué ce mec-là, complètement gaga. Il a une drôle de tête ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Quel biche à bagnole les gars. Elle est drôlement bizarre les gars. Ça se passera pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là?
Certes, l'homme est mortel, dit-il, mais il n'y aurait encore là que demi-mal. Le malheur, c'est que l'homme meurt parfois inopinément, voilà le hic. Et d'une manière générale, il est incapable de savoir ce qu'il fera le soir même. Quelle façon absurde de présenter les choses, pensa Berlioz qui répondit « Là, vous exagérez. Pour moi, par exemple, je sais à peu près exactement ce que je vais faire ce soir. Évidemment, si dans la rue Bronaïa, une tuile me tombe sur la tête... » « Où que ce soit, jamais une tuile ne tombera sur la tête de qui que ce soit, interrompit l'étranger. » Vous en particulier, vous n'avez absolument rien à craindre de ce côté, vous mourrez autrement. Vous savez sans doute exactement comment je mourrai, s'enquit Berlioz avec une ironie parfaitement naturelle, acceptant de suivre son interlocuteur dans cette conversation absurde. Et vous allez me le dire? Bien volontiers, répondit l'inconnu. Il jaugea Berlioz du regard, comme s'il voulait lui tailler un costume, marmotta entre ses dents quelque chose comme... 1, 2, Mercure dans la deuxième maison, la lune est partie. 6, un malheur, le soir. 7, puis à haute voix, il annonça gaiement, on vous coupera la tête. Stupéfait par cette impertinence, Bièse d'Omni dévisagea l'étranger avec haine. Cependant que Berlioz demandait avec un sourire oblique, ah bon? Et qui cela, l'ennemi? Les interventionnistes? Non, répondit l'autre, une femme russe, membre de la jeunesse communiste. Grogna Berlioz, irrité par cette plaisanterie de mauvais goût. Excusez-moi, mais c'est peu vraisemblable. Excusez-moi à votre tour, répondit l'étranger, mais c'est la vérité. Ah oui, je voulais vous demander ce que vous comptiez faire ce soir, si ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Je vais d'abord rentrer chez moi, rue Sadovaya, puis à 10h, j'irai présider la réunion du Massolite. C'est tout à fait impossible, répliqua l'étranger d'un ton ferme. Et pourquoi? Clignant des yeux, l'étranger regarda le ciel, que des oiseaux noirs, pressentant la fraîcheur du soir, zébrait d'un vol rapide et répondit « Parce qu'Anouchka a déjà acheté l'huile de tournesol et non seulement elle l'a achetée, mais elle l'a déjà renversée, de sorte que la réunion n'aura pas lieu. » Vous cherchez le tourniquet, citoyen ? S'informa d'une voix de ténor fêlé un type à carreaux. Par ici, s'il vous plaît. Vous avez la sortie droit devant vous pour aller où vous devez aller. Vous n'auriez pas pour le renseignement de quoi acheter un quart de litre pour un ancien chantre d'église qui a besoin de se retaper ? Et l'individu, avec une courbette ridicule, ôta sa casquette de jockey d'un grand geste du bras. Refusant d'écouter ce tir sous grotesque, Berlioz courut au tourniquet, le saisit d'une main et le fit tourner. Il allait traverser la chaussée et les rails lorsqu'une lumière rouge et blanche jaillit devant ses yeux. C'était une sorte de boîte à parois de verre où se détachaient des lettres lumineuses « Attention au tramway ». Au même moment, le tramway apparut au tournant du passage Ermolaïevski pour prendre la ligne nouvellement installée de la rue Bronaïa. À l'instant où il s'engageait sur la ligne droite, la lumière électrique s'alluma soudain à l'intérieur et il mugit en grossissant à vue d'œil. Bien qu'il ne courût à l'endroit où il se trouvait aucun danger, Berlioz prudent décida de revenir derrière la grille. Il remit la main sur le tourniquet et pour l'ouvrir, il fit un pas en arrière. Mais aussitôt, sa main glissa et lâcha la barre. Son pied irrésistiblement fila, comme sur la glace, sur les pavés légèrement en pente qui bordaient les rails. Son autre jambe partit en l'air et Berlioz fut précipité sur la voie. Essayant de se raccrocher à quelque chose, Berlioz tomba à la renverse. Le derrière de son crâne heurta légèrement le pavé et il eut le temps de voir très haut au-dessus de lui, mais était-ce à sa gauche ou à sa droite, il ne pouvait déjà plus s'en rendre compte, la lune d'or pâle. Il eut également le temps de se tourner sur le côté, de ramener d'un mouvement convulsif ses jambes à son ventre et, levant la tête, de voir foncer sur lui avec une force irrépressible le visage blanc d'horreur de la conductrice du tramway et son brassard rouge. Berlioz ne poussa pas un cri, mais toute la rue s'emplit d'un hurlement de femmes épouvantées. La conductrice tira de toutes ses forces sur le frein électrique, la lourde voiture piqua du nez, puis aussitôt bondit en avant, et des vitres volèrent en éclats, avec un tintement assourdissant. À ce moment, dans le cerveau de Berlioz, une voix cria avec désespoir « Est-ce possible ?» Une fois encore, la dernière, la lune brilla, mais déjà éparpillée en morceaux, puis ce fut le noir. Le tramway recouvrit Berlioz, et sur les pavés qui montaient vers la grille de l'allée, fut projeté un objet rond et de couleur sombre. L'objet heurta la grille, sauta sur le pavé, puis roula jusqu'au milieu de la chaussée, où il s'arrêta. C'était la tête coupée de Berlioz.
Du bobo Léon, il porte un bandeau Léon, il a du bobo Léon, au pauvre Léon. D'abord il s'appelle pas Léon, mais je me souviens plus de son nom, je peux pourtant pas l'appeler Hortense, et puis ça n'a pas d'importance. Il a du bobo Léon, il va peut-être canner Léon, il a du bobo Léon, au pauvre Léon. On l'a mené à l'hôpital pour le soigner où il avait mal. Il s'était fait mal dans la rue, mais on l'a soigné autre part. Et il est mort.
Elle a vu craquer des ciels de traîne et le vent sculptait les vagues d'horizon. Elle a respiré l'haleine des étoiles de la mer et soufflé sur le chien dent des dunes. Elle a frôlé des visages de houle et des matins furieux d'orage. Elle a valsé sa rage sous les démons de lune. Elle a respiré des peaux d'enfants aux veines bleutées de porcelaine, refermé son corsage et lâché les amarres de ses deux oiseaux blancs. Puis elle a rêvé de voilure, d'hommes nus et de mâts de misaine, de bateaux sauvages, de sable chaud et de parfums d'Orient. Elle a rangé ses peines, bu ses larmes de fond et rassemblé les moments perdus que le poison du temps confond. Elle a posé sa bouche à la fontaine obscure où les heures se traînent aux saisons, dans son flot glacé et dur. Son corps se raidit et tremble, étincelle vaincue, fatiguée de ses danses. Elle est un souffle rebelle, un reste d'évidence, un miel de septembre, une terre à l'abandon. Pour tous les jours qui se ressemblent, sans sel et sans passion, les blessures pâles sont mortelles. Elle rêve d'une odeur de soupente au creux d'un édredon, d'un piège de plumes et de caresses, de gestes qui s'épuisent et se rendent, de dentelles de frissons. Dans ses mains qui ne sont plus à prendre, s'étire un été de plomb. Vendange d'une vie en pente douce, sous le sol caillouteux de ses pas, le vin pétille encore à ses lèvres blanches. Alors, le temps fatigué repousse les heures d'opale bleue. Les jours s'écoulent de leur mieux. Elle veut boire et respirer à fond tous les mots cachés dans la soie, enfanter l'écriture des mots qu'on ne dit pas.
Le copain de mon père, il venait en bout de moi. La, 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 la. On lui servait un verre, s'en réservait trois. La, 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 la. C'était un roi déchu, une épave, un fantôme qui pointait au chaume du en attendant son trône. mon père l'accompagnait tout au bout du chemin. Et froissait un billet dans sa poignée de main. Il s'appelait peut-être Marcel et roulait en Vespa. La 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 la. À côté de sa selle, le copain de papa. Le copain de mon père, c'était un amiral. La 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 la. Qui boitait de travers et flottait du moral. La 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 la. Il avait le cœur cassé, il suçait des cachous quand il nous embrassait. On s'essuyait les joues. Recalé de la sécu, il brassait son roman et des histoires de cul qui faisaient rougir maman. Il avait eu des femmes, des baisers, du tabac. La, la, la. Des mômes et même une âme. Le copain de papa. Le copain de mon père, il avait le nez bleu. La, 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 la. Un pull vert, tout vert. Et un regard pluvieux. La, 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 la. On l'appelait Train-Train. Il se taisait jamais. Et quand il causait à rien, on croyait qu'il dormait. Il avait cru des guerres, pacifier l'Algérie, manger des pommes de terre, brûler des champs de riz. Il montrait des copains vaguement morts là-bas. Regardez ses mains aux copains de papa. Le copain de mon père, un jour, on l'a plus revu là. On se regarde, on se perd, ou on se perd de vue là. Il a dû changer de peau, se refaire du fric, s'envoler en loto. Le cul dans une barrique. C'est drôle mais c'est curieux, c'est bizarre, ça me manque. Son Vespa, son pif bleu, sa gueule de saltimbanque. Les souvenirs font des miettes, ça fait 10 000 repas. Là, là, là. Que je rajoute une assiette pour le pote à papa.
Les cheveux tout collés d'un sommeil d'enfant, il est couché sous le blond sycomore. Il a recroquevillé ses ailes de goéland dans la chaleur vanillée de l'air et le doux soleil d'or. Il dort. Comme une étoile aux grandes mains de sel, à l'ombre de mes nuits, il a trouvé un port. Son corps agile et lent se réveille, ses gestes ont la force des marins, heureux dans le bleu des haubans. Mes yeux noyés se perdent dans les méandres du temps. Sous les draps froissés du désespoir, le lit est grand. Il dort. C'est le fils des anges mystérieux, l'otage du vent et de l'hiver. Dans le ciel froid de mes nuits, il vit. Au palais de ma mémoire, sa terre, je l'ai couché sous mes paupières. À mon chevet des jours de pluie, de mes crépuscules de feu, ou dans celui calme de mes aurores, il dort. Il avait les yeux couleur fougère, la peau tannée et le cœur pur. Son île, c'est mon eau de mer immense, où brillent les perles de nacre et d'azur. Il est parti sans bruit, silencieux comme un météore. Il dort.
La lune allume son petit réchaud. Tu vas boire du croissant chaud dans ton grand bol de Voie lactée. Dans les cieux, tout est abecté. Il ne manque que la margarine. Goodbye, Gagarine. Là-haut, avec un seul copec, on a tout et le cœur avec. L'espace est un grand magasin et le vide un lointain cousin qui roule sa caisse en vitrine. Goodbye, Gagarine. Des recalèches, des hublots, en haut en bas, tout est à l'eau. En haut en bas, tout est à vendre. T'ouvres un sourire sur ton scaphandre avec une clé de boîte à sardines. Goodbye, Gagarine. As-tu croisé le vieux Saint-Ex? As-tu réparé son Solex? Traînes-tu encore ce sale gamin? Qui voyait l'avenir des humains au plus gros qu'un grain de farine? Goodbye, Gagarine. Moi, quand je rêvais d'être cosmonaute, c'était pour faire braver les autres, ceux qui croyaient monter aux cieux en se tirant par les cheveux, les bras emplis de ballerines. Goodbye, Gagarine. Paraîtrait que de ta capsule on voit la terre comme une bulle, un lion te salue de sa jungle, et l'étoile polaire t'épingle ses seins branches sur la poitrine. Goodbye, Gagarine. Sous ton auréole électrique, les esturgeons de la Baltique sont au soleil comme les carpes. Toi t'enfiles un bras en écharpe autour du cou de Marilyn. Goodbye, Gagarine. Éternité, vieux os, Zorro, d'Artagnan du cosmos, toi qui disais que dans l'au-delà manquera toujours un bain de lilas pour nous fredonner aux narines. Goodbye, Gagarine.
Tu valseras pour rien, mon vieux, la belle que tu serres dans tes yeux. Ce n'est pas de l'amour, c'est une envie d'amour, tu valses avec une ombre. Pas d'amour, pas de guitariste, ta solitude est seule en piste, et le bal terminé, le jour fera tomber les belles que tu tombes. Et le froid glacé du matin, pauvre chien, fera tomber tes fiancées. Toute la nuit, t'auras valsé, une valse pour rien, pour rien. Une valse pour rien, pour rien. C'est pour rien que tu valseras, tu tiens du vide dans tes bras, La chaleur que tu sens, c'est celle de ton sang qui valse dans ta veste. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'orchestre, tout ça se passe dans ta tête. Cendrillon a laissé au fond d'un cendrier la cendre de ses gestes. Et nous voici déjà demain, pauvre chien. Rentre ton cœur dans son étui. T'auras valsé toute une nuit, une valse pour rien, pour rien. Une valse pour rien, pour rien. Tu valseras pour rien, mon vieux, la belle que tu serres dans tes yeux. Ce n'est pas de l'amour, c'est une envie d'amour. Tu valses avec une ombre. Le temps de finir la bouteille, j'aurais rallumé un soleil. J'aurais réchauffé une étoile, j'aurais reprisé une voile. J'aurais arraché des bras maigres de leur destin 1000 enfants nègres. En moins de 2, j'aurais repeint en bleu le cœur de la putain. J'aurais renfanté mes parents, j'aurais peint l'avenir moins grand et fait la vieillesse moins vieille. Le temps de finir la bouteille. Le temps de finir la bouteille, j'aurais touché la double paye. J'aurais acheté un cerf-volant pour mieux t'envoler, mon enfant. Un lit doux et un abat-jour pour mieux t'éteindre, mon amour. Dans une heure, un litre environ, j'aurais des lauriers sur le front. Je serais champion, j'aurais cassé la grande gueule du passé. Et ce sera enfin demain la veille, le temps de finir la bouteille. Le temps de finir la boutanche, et vendredi sera dimanche. J'aurais planté des îles neuves sur les vagues de la mer veuve. J'aurais dilué la lumière dans la perfusion de grand-mère. J'aurais agrandi la maison pour y loger tes illusions. J'aurais trouvé du pain qui rime avec des pièces d'un centime. Rire et pleurer, ce sera pareil, le temps de finir la bouteille. Le temps de finir la bouteille, et chiche que la poule essaye de voler plus haut qu'un gerfaut. Chiche que le vrai devient le faux, que j'abolis le noir, le blanc, la prochaine guerre et celle d'avant, les adjudants des syndicats, la soutane des avocats, les carnets bleus du tout Paris, le dernier né du dernier cri, la force, le sang et l'oseille, le temps de finir la bouteille. On avait un seul pull pour deux. Un grand pull-over d'amoureux. Chacun un bras pour une manche et chacun l'autre pour la hanche. Au début, il serrait un peu. Impatient, on guettait l'hiver. L'été, des glaces en plein ouvert, on tuait, comme on dit, le beau temps. Tout simplement en tricotant des petits, petits pull-over. Puis le temps a lâché ses mailles et quand on ne fut plus de taille, pique-assiette et pique-cœur sont venus soudain en squatteur habiter sous notre chandail. Alors la flotte s'y est mise, jusqu'à la chair de nos chemises. Le pull est devenu trop grand, on a démonté quelques rangs pour mieux ficeler nos valises. Tellement il est tombé d'eau sur le toit de notre tricot, on a fini par y nager. L'amour, c'est ce drôle de berger qui tond la laine sur le dos. Un coup de pluie, un coup de fer, un coup d'endroit, un coup d'envers et de cafard et de couteau. Nous voilà chacun sur le dos, une moitié de pull-over. L'amour, ah, la belle crapule qui fait mine d'offrir un pull, puis rembobine sa pelote à mesure que se tricotent les aiguilles de sa pendule. On avait un seul pull pour deux, un grand pull-over d'amoureux.
Cocatis, Amanite, Sahel, Chrysanthème, Canine, Morsure, Varicelle, Migale, Tarentule, Épine, Porte-avions, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Fourmilière, aiguille, acide et calice, le chemin des dames, cercueil, cicatrice, cyclone, ouragan, camisole, typhon, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. guillotine si rose, nuit blanche, les bonnettes, mirador, Stasi, siphon, baïonnette, fleuri, mérangis, la rue, l'Oriston, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Amygdale, pavot, vérole, aspirine, échymose, ortie, sanglot, carabine, carmélite, javel, cobra, charenton, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Camorra, péplum, cyanure, mafioso, Tiananmen, amen, rasoir et ciseaux, hostie, Vatican, Jean-Marie, Mormon, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Picador, arène, dollar, récidive, ouragan, menottes, acide, Tchernobyl, atomé, neutron, neurone et citron. Et toi, c'est quoi ton petit nom?
Tiens, c'est le fond de la bouteille. Ça y est, nous voilà vieux, ma vieille. Des vrais vieux qui trient les lentilles, des vieux de la tête aux béquilles. Tiens, voilà le bout de la rue. On souffle comme qu'il aurait cru du temps qu'on vivait à grands pas, du temps qu'on leur en voulait pas aux étoiles de disparaître. La retraite. T'as beau dire qu'on nous rend le cœur une fois vidé du meilleur, qu'ils ont pris le tronc et la force, qu'ils ne rapportent que l'écorce. N'empêche, c'est déjà moins con que soit consigné le flacon, qu'après le festin on nous laisse les arêtes de la vieillesse, le temps de finir la cigarette, la retraite. Tout ici à la soixantaine, ce café-là sent la verveine, je t'aime, enfile tes chaussons, l'amour jette ses paillassons, et la tête tourne soudain à relire le papier peint, où mille fois les chasseurs tuent un grand cerf qui cherchait l'issue entre la porte et la fenêtre, la retraite. Il paraît qu'à un certain âge, plus ou moins l'esprit déménage, et qu'on a la raison qui tangue et des cheveux blancs sur la langue. Nous, on doit être centenaire à rêver du bout de la terre, avoir des envies de Pérou et entendre au-dessus du trou ce bruit de pelleté qu'on jette. La retraite. Le soir descend, partons d'ici. Faudrait pas qu'il nous trouve assis. Si on larguait les bibelots, tout tiendrait dans un sac à dos. Regarde, on tend le bras et hop, ils appellent ça l'autostop. Tant pis si on n'a pas de jean et si cette conne s'imagine qu'avec elle le cœur s'arrête, la retraite. Adieu le lit, salut Madrid, on laisse pas longtemps nos rides, pour peu qu'on se démerde bien, on sera à Tolède demain, à regarder les ombres lentes, éteindre les maisons brûlantes, salut l'oranger sur la cour, salut la paresse des jours, j'avais hâte de te connaître, la retraite. Tiens, c'est le fond de la bouteille, ça y est, nous voilà vieux, ma vieille. C'est peut-être Mozart, le gosse qui tambourine deux points sur le bazar des batteries de cuisine. Jamais on le saura. L'autocar du collège passe pas par opéra. Raté pour le solfège. C'est peut-être Colette, la gamine penchée qui reconte en cachette le fruit de ses péchés. Jamais on le saura. Elle aura avant l'heure un torchon dans les bras pour se torcher le cœur. C'est peut-être grand Jacques, le petit au rire bête, qui pousse dans la flaque sa boîte d'allumettes. Jamais on le saura. On le fera maçon, raté, Bora Bora, un mur sur l'horizon. C'est peut-être Van Gogh, le petit qui grave des ailes sur la porte des Gog avec son opinel. Jamais on le saura, râpé les tubes de bleu. Il fera ses choux gras dans l'épicerie de ses vieux. C'est peut-être Cerdan, le môme devant l'école, qui recolle ses dents avec du limpidol. Jamais on le saura. Chaos pour ses 20 piges, dans le ring de ses draps en serrant son vertige. C'est peut-être Jésus, le gosse de la Tourneuf, qu'a volé au prisu un gros œuf et un bœuf. On le saura jamais, pauvre flocon de neige. Pour un bon Dieu qui naît, 100 millions font cortège.
sans t'avouer que je me manque. Donne-moi de mes nouvelles. Dis-moi dans quel port se planque la barque de ma cervelle. Me crois-je encore guitariste? Comment vis-je, comment vais-je? Ai-je toujours le front triste d'un professeur de solfège? As-tu rendu au voisin la page du Télérama dont il avait tant besoin à cause du Dalaï Lama? Vis-tu encore avec moi? How I am, I'm not so well. De ma santé, je m'en fous, c'est surtout de mes nouvelles, loin de toi, dont je suis fou. Ma chienne Lou est-elle morte? Ai-je arrêté de fumer? Combien de rosiers avortent avant d'avoir parfumé? Est-ce que mon ombre chinoise à l'angle du cinéma a enfin payé l'ardoise du restaurateur chinois? Vis-tu toujours avec moi? Donne-moi de mes nouvelles. Et ma cinglette à carreaux fait-elle toujours des merveilles au championnat de tarot? Connaît-on encore le Prest? Fait-il encore des chansons? Les mots vont, les écrits restent, souvent sous les paillassons. C'est quelle heure de quelle semaine? C'est quelle saison de quel mois? Longes-tu toujours la Seine au bras de mon frère siamois? Vis-tu toujours avec moi? Donne-moi de mes nouvelles, file-moi le boléro du téléphone à Ravel et de mon dernier bistrot. Comment vis-je? Comment boitent mes pauvres pieds d'haricot? Et suis-je encore mise en boîte avec mon drapeau coco? On s'est promis tant de plages au bord des panoramas. Es-tu encore en voyage avant mon prochain coma? Vis-tu toujours avec moi? Viens-tu toujours avec moi?
Le monde se noyait, place de la Courneuve. L'espoir faisait la fête, il fallait bien qu'il pleuve. Il mangeait un loukoum et des rêves à papa. Je t'avais reconnu, on se connaissait pas. Il flottait sans radeau sur le poumon du fleuve. J'ai entendu tes pas qui cherchaient une ville. La douleur de la peau de ton état civil. Une vague battait les plages de tes joues. Un son, un goût, un peu de nacre et d'acajou. Un feu de pomme à pain allumait ton profil. Entre la mer d'ici et les grappes d'agrumes, les épluchures bleues, un fol écho d'écume. J'ai suivi tes talons qui cousaient le trottoir. Sans cajot de citron racontait ton histoire. Des gouttes d'incendie perlaient sur le comptoir. Un torrent vertical achène aux silhouettes. J'ai bu ta main, c'était l'automne est sur nos têtes. Le ciel a renversé son arrosoir de plomb. J'ai rejoint ta pupille encerclée de néon. J'ai croqué l'arc-en-ciel qui poussait sur ton front. Sous l'estand éventré qui crachait le cortège. Le premier bouche à bouche au creux du dernier siège. Tous les lampions prenaient des airs de lamparo. Alors on s'est jeté dans le lit du métro. Aucun de nous n'a dit la promesse de trop. Aucun de nous n'a dit la promesse de trop.
Je la voyais danser, danser la gitane sur le paquet des cigarettes de papa. Elle avait une robe en papier, les yeux bleus comme la fumée et la peau couleur de tabac. Hé, señorita Seita, ce soir je vais craquer pour toi l'accordéon de mes poumons. Pour cette fine silhouette et ces castagnettes muettes dans la nuit noire du goudron. Viens me donner à la tétine ces paroles de nicotine qui mettent ma gorge au supplice, quand 100 000 bouches te baisent du bout filtre jusqu'à la braise dans un champ de papier maïs. Descends jusqu'au fond du mégot, chanter du rocco flamenco en grattant mes cordes vocales, danser les pieds nus dans la cendre, allumer ma bouche et entendre battre mon cœur de caporal. Ô belle brune qui se fume dans ce siècle où tout se consume entre nos doigts jaunes et se jette. Ô toi qui porteras mon deuil demain couché dans le cercueil de mon étui de cigarette. Je la voyais danser, danser, la gitane sur le paquet des cigarettes de papa. Elle avait une robe en papier, les yeux bleus comme la fumée et la peau couleur de tabac. C'est tout au fond du Père Lachaise, dans la section 96, qu'elle a trouvé son dernier nid, entre le mur des fédérés, couvert de roses, et le carré maudit de Modigliani. C'est ici son premier repos, ici que Théo Sarapo dort dans la cage de ses ailes. Si la tombe paraît petite, c'est qu'il fallait trop de granit pour qu'elle soit à son échelle. Général Auguste pompeux, qui ne t'excuse plus du peu, c'est du marbre sans épitaphe, c'est la plus petite des tombes, c'est celle d'un moineau dont l'ombre couche son grand cou de girafe. Non, rien de rien sur les épaules, elle hante un curieux musical, les feuilles des arbres la bissent. Chrétien, accorde à ton roi un jour la permission de croix pour que ses deux mains l'applaudissent. Un faisceau de lune lointaine, un dernier projo sur la scène, Molière l'écoute chanter, un cimetière c'est un théâtre, dans les rangées écoutez battre le cœur gros de l'éternité. Sais-tu comment font les artistes pour ne pas rendre la mort plus triste qu'un au revoir au bord d'un quai? Suffit que l'amour est un hymne, des millions d'amants anonymes viennent y planter leur bouquet. C'est tout au fond du Père Lachaise, dans la section 96, qu'elle a trouvé son dernier nid, Madame Lamboucasse est dite, dite Piaf, dans l'ombre maudite du peintre Modigliani. Qu'est-ce que t'as, Franginette? C'est drôle, t'es plus la même. Celle qui tachait ma piole d'éclaboussures de robe, qui se gavait de Beatles et de choux à la crème, qui lisait les Claudines à cheval derrière ma mob. Dans ton blouson de marlou, Bilou. Pourquoi t'as maquillé tes lèvres à la craie blanche? Ta bouche où fleurissaient des musiques si rouges, des gros mots merveilleux, des rires en avalanche, des internationales pour emmerder les bourges, des baisers pour les loups, Bilou. Mais qu'est-ce que t'as, ma jumelle? C'est-y ça le mal du siècle? Se fuir du mal à cause d'avoir du mal aux autres, s'arracher tant de larmes qu'on se retrouve à sec, voir un été pourri, se dire que c'est de sa faute, crécher dans un igloo, Bilou. Bilou, ma belle idiote, ce serait trop moche, dis. Si ça couvait aussi chez toi cette langueur, c'est comme une maladie qui n'est pas une maladie, qu'on croit que ça vient du cœur et qu'on n'a rien au cœur, qu'un invisible clou, Bilou. Bilou, le feu follet, la plus courue de mes boumes, le bonheur sur ta peau a retourné sa veste, le bar du Saint-Amand, le café au loukoum, le temps se fait la paire en accrochant les restes au clocher de Saint-Maclou, Bilou. Qu'est-ce que t'as, ma jumelle, qu'on croit inguérissable, qui use les regards dans les boîtes de Kleenex, qu'enlise chaque pas sous des tonnes de sable, qui sert du bouillon fade dans des verres en pyrex, qui rend les photos floues, Bilou.
Bilou, fais un effort, je te jure que tu ris. Rire, oui, c'est ça, tu te rappelles, tu vois, c'est pas si dur. Regarde la pluie se barrer au cul du car ferry. Le vent lèche tes joues peintes de confiture. Pour un peu, je serais jaloux. Bilou, Bilou.
Dans le sac à main de la putain, y a les pilules et du fond de teint. La tronche d'un mec perdu en mer, les lettres jaunies d'une mère qui la croit vendeuse au printemps et qui envoie pour ses 30 ans un pauvre billet plié en 7 pour qu'elle se paye un mini cassette. La putain dans son sac à main, il y a du rouge à fièvre carmin. Le portefeuille de son macro, sa fausse déclaration d'impôt et la conscience de ceux qui casquent pour avoir le droit d'être flasque. Ceux qui prennent, quand ils font l'amour, leur vessie pour un abat-jour. La putain dans le fond de son sac, elle balance cœur et cul en vrac. Fait d'hiver, de libé soir, de la crème pour pouvoir s'asseoir et des cigarettes à bout jaune pour incendier les toits de sa zone. Où elle reviendra tartiner de pèse, s'acheter le bar du boulevard Torres dans le sac à main de la putain. Y'a un réverbère et un train, y'a de la coke à 20%, un rasoir à se raser le sang, un savon et un gant de toilette, 10 centilitres de violette, et les serments d'amour en quitte de ceux qui la baisent et la quittent. Dans le sac à main de la putain, il y a 200 000 balles de turlute, 200 000 barbes à papa pour le môme qu'elle n'aura pas, la page 43 du missel, crochée à son porte-jartel, et la lettre de sa maman qui la croit vendeuse au printemps.
Pour le peuple des mines d'argent, prière. Notre-Dame de l'oubli et de la déshérence, fais que nos cœurs gardent innocence, car voici qu'un enfer sous nos pas est ouvert. Nous, peuple des mines d'argent, peuple des fumées, jeunesse que la rivière emporte, peuple que Dieu efface, use et remplace au royaume de la grande usine, nous te prions. Nous, en habits de fumée, fumée du rêve, fumée des temps anciens, encens du monde qui s'achève, nous te rêvons. Fumée de l'oubli, fumée du grand hiver, fumée de l'été des vengeances, encens du tourment des hommes, nous, par ta magie transformée, en ta prière sommes renouvelés. Peuple des écorces mortes, peuple des drames, peuple dont sang et couleur sont noirs d'usine, fumée des écorces. Nos mains se rapprochent comme nos cœurs, nos mains accrochent des prières. Blanche sœur d'immortalité, fée de l'oubli et de la déshérence, fée que nos âmes pèsent moins que le rêve et moins que nos pensées. Notre-Dame de l'oubli et de l'innocence, garde nos cœurs purs et fiers, comme au matin premier. Concerto. Je me souviens d'un linteau grossièrement sculpté à l'antique. Notre image attend seule au soir d'un nouvel an moderne, au comptoir d'un café triste. Mélodies balourdes et nationalistes. Mayonnaise instable des voix crayeuses quasi inaudibles. Froideur des chairs enfumées. la mort est installée au sol invisible. Je me souviens de tables bâchées, de maigres chaises retournées. Abusés eux-mêmes, les donneurs d'ordre ont dressé des pièges complexes vers notre image. Insidieux, tenant de jalousies aveugles, leurs messagers ont... Leurs messagers exudent un venin persistant jusqu'au gravier des tombes. Je me souviens de moteurs démarrés rongeant l'épaisseur nocturne. La bière suintée de la compression de la nuit. En étagement vulgaire, l'obscénité du mensonge formait la seule honteuse et très banale hypothèse. Au-devant, la mort s'installait, à vendre. Tout se payait 100 fois. 100 fois notre image recueillait un égarement. Je me souviens d'adieux fanés, digérés par les yeux et les estomacs. Les glaces du café triste glissèrent au sol invisible. Oh, comme il fallait que l'âme fût forte pour laisser paraître le monde à notre image peinte. Comme il fallait que l'âme fût forte. Je me souviens d'un concerto répercuté des confins. Je me souviendrai d'époques advenues fabuleusement. Conversation à l'Estérel. D'une conversation avec l'arme sur la tempe, tu m'avais sauvé, sans doute. La joie bien apprise m'accompagnait à la porte où tu m'attendais. J'étais vieux et fou. Le trottoir était vide. Mieux vaut brûler. Nous brûlerons à ces plages de l'ignorance. Le fier soleil du couchant gouvernait aux vagues. Et comblé de sa chair, les rides autour de l'Estérel. Le creux dimanche et les veines vides, tout pendait des toits et tremblait aux cornes de ma lyre. Je renaissais, apprenti dans d'autres corps. Les déguisements des promenades avaient un aspect trouble et l'on sentait peser la voûte de misère sombre. La richesse rance, répandue à l'esplanade, plonge encore au gouffre d'escalator sans étoiles, agonie putride dans des relents de vieux pétrole. Les décisions furent réduites à l'état de poudre. Les oiseaux étaient de pierre et les prières de porphyre. Il pleut de la jeunesse calcinée un langage de poudre. Le quart-monde bouscule des vitrines. Des missiles se pavanent au ciel et dansent sous les manches. Mieux vaut brûler. Mieux vaut brûler. Le rouge rendu bleu et le vent acide m'accompagnaient au périphérique. J'étais jeune. Je conversais avec toi, morte, qui tenais l'arme sur ma tempe. Je savais que je t'aimais. Je savais que je t'aimais. L'Estérel s'enfonce à la mer.
L'amour qui... cheval fou d'amour qui s'éteint. Un vent d'acier commande à la jeunesse. Un monde arrive sur les ailes du matin.
Opéra des Résistances, hommage à René Char, extrait. Donc, il faudra fuir l'artifice, la posture, le non-sens esthétique. Il faudra fuir l'insulte esthétique rampante, l'imposture artistique. Il faudra résister. Et l'état de l'être sera traduit par le poète, partagé en artiste, mais vécu solitairement dans son principe. Et l'insulte esthétique se fera souillure définitive par l'uniforme ennemi surgissant au paysage sur la terre violentée. Alors les armes, prenez garde, les couteaux sont tirés, il faut les avaler, et l'air est remplacé par la haine. Il y a toujours un sang qui coule, bleu ou brun, des membres découpés en des frivolités barbares. Va libre à l'encontre de la canaille, du rêve de sang, et souviens-toi, que ta mémoire explose, la tête pendait au côté droit, face à barbarie. L'écorce en tête bouge et rampe vers toi. Pleure, poète, pleure. Il y a toujours un sang qui coule, noir, un sang qui fume dans les tasses, et toujours le soir coule, dogme graisseux enveloppant les croyances guerrières. Va libre. Alors les armes, il y a toujours un temps qui fume au saignement du petit matin, il y a toujours des poissons morts glissant des claviers sur la et la réalité qui s'enfle de couches d'écailles. Tu sais que la liberté est dans le cœur, René Char, mais y crois-tu autant que tu pourrais l'écrire? Qui le sait? Tu sais, toi, que la réponse enfle dans la mort comme une architecture du musc et de l'ambre. Onction salvatrice. Les portes au-devant de toi s'ouvrent au passé, les défaites déjà sont écrites. La vie est bien l'épuisement de toutes les résistances. Pleure, poète, pleure, comme une pluie. Nous serons la pluie. Nous serons la pluie. Nous aurons la pluie. Avoir fascination solide sous la pluie du soir sonnante dans un halo d'abandon. Être, fascination torrent dans le noir d'étoiles, étagement non visible d'empire, débris d'une pluie armée. Nous aurons nos mardis, et nous rappellerons les champs de blé à notre table. Nous appellerons les volontaires ou les anarchistes, et nous serons la pluie, nous serons la pluie, nous serons la pluie. Alors les armes, la tronche rocailleuse, le corps noueux comme d'un chêne ou d'un cep. Les mains, poétiquement, relèvent les morts. Des mots, des mains, des mots dévoileront un chemin de patience. Des mots afin de préserver l'avenir. Mais l'avenir était-il au hurlement des tanks? Était-il à l'homme résistant voguant sur l'océan de honte, le fleuve debout de la détresse française, avec ses cris et ses appels les plus profonds? Pleure, poète, pleure. Prenez nos écrits pour nous-mêmes, nous, sainte division de la nuit.
Thank you. Par un jour sans matin, tant la brume était lourde en parcourant le chemin creusé d'ornières sourdes, je pensais au destin des dernières feuilles d'automne, celles qui, de l'arbre se séparant quand le soir frissonne. Tu sais, cette feuille-là prenait tout son temps après son détachement. Elle se posait sur un souffle pour repartir plus lentement. Le bruit des pas sonnait déjà dans les graves doux. La mouillure de la nuit fardait tout de roux. Par ce matin grisonnant, à l'aube d'un jour à naître, un merle chassait tantôt un ver qui venait de paraître, le cheveu embué de cristalline gouttelette, je sentais la racine pénétrer mon être. Par ce matin gris d'automne, en allant sur les sentes, accroché à la ronce, piqué sur une traverse de descente, j'allais par le bois respirer l'heure de vivre, épier aussi la vie qui attendait pour surgir, qu'un obligeant rayon chauffa enfin le sol, d'où montait en fumant la respiration de la nuit. Demain, un autre jour, verrait d'autres fumerolles. Je suis un faune. Le matin où deux couleurs vous éveillent, le blanc, le gris n'ont pas fait de bruit, laisse alors le rêve se parsemer de soleil. Le ciel retient à foison le nuage instruit qui versera sur la campagne jaune et froide un plein tombereau de plumes blanches et roides. Le vent sculpte ici quelques portraits de neige ou de glace à grands traits. Le matin où le blanc vous éveille, crève le rêve, le soleil, un silence profond habite le bois voisin. Tout disparaît, troncs, sente et chemins. Le matin où le gris vous réveille, pleure le rêve de larmes vermeilles, un trou, une trace, la neige inlassable, bouche, nivelle, recouvre même le sable, le matin où la neige émerveille, un pied dans la vie. Un autre en sommeil. Je suis un faune. Le chemin de poussière devient flaque à la faveur d'une folle averse flasque. La route de blanche devint noire. Les gouttes par milliers voulaient peindre avant que d'un carrosse une trace noire ne s'incruste pour manger ou déteindre en un mince filet se jouant au vent. Le chemin supportant le lourd roulement. Un insecte vint à passer. Était-ce son chemin ou sa destinée? Il reçut d'abord une goutte pour se mouiller, puis une roue pour s'écrabouiller. L'humeur change au gré du vent. De bonne, elle devient nonchalante. La pluie la mouille et la rend terne. Le soleil sèche, mais la rend ferme. Et je suis un faune. Elle était venue pour un soir nous prêter sa douceur d'exister. Elle, petite goutte, ne savait où mouiller. Elle, fine perle de vie, ne tombait qu'au hasard. On était surpris, sans l'attendre, après un labeur chaud, un bourdonnement intense. Le vent apportait de loin cette nouvelle, les réserves grises sortaient du ciel et venaient répandre la manne généreuse sur des terres déjà entrebâillées.
La beauté de l'amour.
Aux ailes pourprées d'un papillon, incandescent s'accroche tes yeux d'un rouge brillant. Le corps entier semble s'envelopper d'un diaphane manteau étoilé. La puissance d'un verbe placé haut ne défixe pas le regard rivé là. Aux ailes constellées d'un ciel d'été s'immobilise ton regard éberlué d'un coup. Le vertige remplit l'espace. La paupière lourde bascule ailleurs, la tempe frappe, l'estomac se noue, la peur glacée arrive de partout. Un être s'éteint ou s'étiole dans le grand magma du monde. Qu'était-il celui-là? Que de ses rouges paupières pouvait encore se laisser porter par l'autre aux ailes poudrées? Si longue soit la route, si poudreux soit le chemin, il te mène où il veut, toi le gardien. Le troupeau, coûte que coûte, connaît le sentier et son parfum. Les vagues de laine ou de feu se déploient, mouvantes comme un lien, invisible pour nous autres pauvres humains, qui de nos sens sommes privés, divorcés d'avec notre élément premier, fiers d'être à part et maître d'un monde où l'on se piétine, où le bonheur est réduit à un soufflet, où la vie même n'est qu'un camouflet. Cette route et ce chemin qui là-bas se termine nous montrent sans doute ce qui rend fort l'humain. Envahissante envie de briser là et le destin et le commun présent. Pas plus qu'une goutte ne devient flaque, pas plus une vie ne devient marque. Calme, brisure, lancinant moment, pénétrante cassure, idéal plat, moins qu'un horizon sans flamme, moins qu'une nuit sans lune, l'errance continuelle en solitude n'apporte enfin qu'une vision calme d'un possible nullement approché, de regrets plus que dévidés, une liane fuit, une vie accroche funeste libre, que le monde approche. Au détour du chemin, au creux du sillon, sur l'envers de la vague, sous le blanc du flocon, au détour d'une goutte, au devant de l'OTAN, se forge le temps.
C'était l'émission mensuelle des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Vous avez entendu des textes de Mikhaïl Bulgakov, extrait du Maître et Marguerite, des textes de Monique Flamand, d'Alain Leprest, des textes de Michel Ivogno, extrait des recueils Concerto et Éther, et des textes de Bernard Loyer, extrait des recueils Sensations et Déchirement. Vous avez entendu un tramway freiné, la musique d'Éric Satie, une chanson de Jacques Higelin, une de Ginette Garcin, une chanson de Pierre Vassiliou et une de Bobby Lapointe. Vous avez entendu des interprétations de Leprest par lui-même, par Olivia Ruiz, par Higelin, par Sanseverino. Vous avez entendu des chansons de Michel Ivogno et des chansons de Raphaël Lanader, Arthur H. Vous avez entendu le prélude à l'après-midi d'un faune, Ryushi Sakamoto et la musique des Who.
Et vous avez entendu la voix de Nathalie Vautier.
Merci James, merci à nos invités, merci à Monique Flamand, merci à Michel Ivogno.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Merci.
Merci Christophe Becquereau pour la technique, merci à James Fontaine pour la conception et la réalisation de cette émission. Nous nous retrouvons le jeudi 27 septembre pour la prochaine émission des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs, tu as toujours le choix. de garder les volets fermés ou de laisser entrer la lumière.